et ermite. Sur les traces réelles ou mythiques de la christianisation de Marseille, en suivant le parcours des Carmes, ermites dans les grottes des Égalades, jusqu'aux fouilles archéologiques de Malaval, en compagnie de Christine Breton, conservateur du patrimoine. Première étape de cette remontée dans l'histoire, à l'église des Égalades.
Voilà la façade de l'église. Alors, cette façade de l'église, si tu la regardes bien, tu vas t'apercevoir que c'est un monument, un collage absolument surréaliste de périodes complètement différentes les unes des autres. Tu as la façade 19e avec les trois fenêtres là. Et puis juste dessous, tu as cette espèce de petit monument du 17e siècle, avec à l'intérieur cette porte en bois du 17e siècle. Et alors maintenant, regardons bien cette affaire. Et là, on a quelque chose qui s'écrit qui est très très importante par rapport à l'histoire des Carmes. C'est d'abord un que tu as le blason de l'ordre des Carmes, c'est-à-dire cette colline au-dessus de laquelle il y a la croix avec les trois étoiles autour du pied de la croix. Donc ça, dès que tu le vois, tu le sais, c'est Carmes, ça veut dire Carmes, ça veut dire ancien couvent Carmes, ça veut dire église maintenant, j'allais dire communale, en tout cas paroissiale, mais qui était l'ancienne chapelle du couvent, d'accord ? Et puis, dessus et dessous, dans la niche et dans le bois, tu vois une Vierge à l'enfant qui tient dans la main une espèce de bizarre chose, c'est-à-dire un fil avec un carré au bout. L'enfant Jésus tient la même chose, et dans la niche, la Vierge et l'enfant tiennent aussi la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Et ça aussi c'est typique, c'est comme le blason, c'est le fameux scapulaire qui, dès le XVIe siècle, a défini l'ordre des Carmes. C'était un objet qui était donné ou que l'on allait chercher, et qui permettait soit de gagner des indulgences, quand après il y a eu les indulgences, soit d'être protégé.
Les indulgences, c'était on faisait moins de jours de purgatoire.
Par exemple, exactement, c'est ça.
Un bon point.
Oui, on peut le dire comme ça, mais en même temps, c'était quelque chose qui, spirituellement, qui est un petit peu plus compliqué à comprendre. C'est terrible, hein, c'est une affaire absolument terrible, je te l'accorde, mais qui est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que le temps spirituel et le temps humain venaient s'entrecroiser. Quand tu vois une Vierge à l'enfant qui tient ce scapulaire à la main, tu sais, même si tu n'as pas le blason de l'ordre, tu sais que tu es en face d'un lieu, d'un lieu carmélitain. Alors, je vais t'en montrer un autre. Deux monuments juste à côté, on va faire trois pas et tu vas le voir, c'est la fontaine de Marie-Madeleine. Donc ça encore, tu vas voir, c'est un extraordinaire monument. Il faut que nous arrivions à décrypter ça. Petit à petit, on va y arriver.
Juste un mot, pendant qu'on fait le chemin, un scapulaire, tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ?
Voilà, je sais. Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est qu'un scapulaire aujourd'hui au XXIe siècle ? Qu'est-ce qu'il reste du scapulaire aujourd'hui au XXIe siècle ? Voilà comment je peux te le raconter. Je suis montée au Carmel de Jérusalem, le Pater. Et en vente, au Pater, il y a des petits scapulaires, c'est-à-dire 3 cm, 2 cm par 2 cm, le petit carré, qui n'est pas celui qu'on vient de voir là sur la façade de l'église, n'est-ce pas ? Et une petite ficelle autour. Et ça, c'est vendu vraiment comme protection. Toi, alors, en fait, ça vient de scapulaire, ça vient d'épaule, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est devant et derrière en même temps. Alors, tant qu'on y est, qu'on est maintenant devant notre petite fontaine, regarde ce collage aussi. Il est très amusant. Il est construit au 19e siècle par un architecte urbaniste, Falk, Monsieur Falk, celui qui a construit le Prado et son angle droit que tu connais dans les quartiers sud, qui a fait sa fortune aussi avec ça, qui a été un architecte en chef de la ville de Marseille, etc. Hein. Donc il construit cette fontaine, cette très jolie arcature, en mode néo-gothique. Hein. Tu sais que du néo-gothique, enfin du gothique dans Marseille, il n'y en a quasiment plus. Donc lui, il revient là-dessus, architecture du 15e, 14e, 15e siècle. Il y installe sa fontaine. Toujours, on reprend Égalade, voilà, les eaux, l'aigle, hein. Et il va inclure dans ce néo-15e siècle construit au 19e siècle, cette pierre que tu vois ici, qui, elle, très nettement, est du 17e siècle. Elle est dans la même veine que la façade que nous venons de voir et la statue dans la grotte que nous venons de voir, mais regarde-la bien. Cette fois-ci, Sainte-Marie-Madeleine est installée toujours pareil, un petit peu nonchalamment accoudée. Elle tient donc ce crucifix. On ne voit pas le petit récipient de parfum, mais on voit sa poitrine défaite. Et ça, c'est très 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 important et très très intéressant pour nous. Parce que si l'on cherche dans les archives, si l'on cherche dans l'histoire des pratiques marseillaises, on a une fête à Marie-Madeleine qui se tenait autour d'un tout petit édicule qui était placé à côté de la Major, c'est-à-dire la cathédrale de la ville, hein, à la Joliette, et avait lieu à la Sainte-Marie-Madeleine une grande fête nocturne où toutes les femmes de la ville venaient dans une sorte de grand sabbat et se dépouillaient la poitrine. Bien évidemment, à la fin du XVIIe, enfin au XVIIe siècle, un des évêques a mis fin à cette pratique-là. Mais on a quelque chose là qui est très, très, très sur la tangente entre des vieilles pratiques qui sont en réminiscence, qui remontent comme ça, hein, du fond des âges, et puis une pratique chrétienne. Et sur la personnalité de Marie-Madeleine, ici, à Marseille, on a tout le discours, le récit, la fiction de fondation de la ville qui s'articule. Il y a encore quelque chose du corps qui se passe ici, et d'une connaissance par le corps. Tu vois, d'ici, regarde bien, dans cet axe-là, on a trois réalités de l'église des Égalades, successives, trois plans. Là, nous sommes dans cette montée d'escalier, dans cette partie qui était le couvent des Carmes, plus exactement l'hôpital Saint-Raphaël, qui était un hôpital où l'on soignait, où les Carmes soignaient à partir des sources des Égalades, de la qualité des eaux des sources des Égalades. Puis tout de suite après, tu rentres là dans l'église, on va y aller directement. Et puis derrière, là-bas, tout au fond, tu vois s'ouvrir très légèrement la grotte, qui est le but de notre première petite balade de ce matin. Alors viens voir. Voilà donc la partie de l'église, hein, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les proportions, l'échelle de ce lieu religieux ont été complètement transformées parce que l'église a été surélevée. Elle a perdu complètement ce côté très intimiste qu'elle avait et pour récupérer cette espèce de grand volume dans lequel, évidemment, tout se perd, hein, mais qui ne manque pas non plus de cachet, hein, comme toutes ces belles églises qui ont été construites au 19e dans ce qu'on appelait les banlieues de Marseille. Alors, et la grotte est juste ici. Donc, juste à côté de cette nef centrale, tu vois ce petit escalier. Et on va descendre dans cette réalité un petit peu humide et rocheuse. Voilà, donc c'est la première des grottes que tu vas rencontrer ce matin. Et elle est occupée, tu le vois, pour l'essentiel, par cette grande statue d'une Marie-Madeleine étendue, accoudée, avec son vase de parfum, c'est comme ça qu'on la reconnaît, les cheveux longs, c'est aussi comme ça qu'on la reconnaît, tenant à la main soit une tête de mort ou bien un crucifix, qui est la même chose, c'est-à-dire l'image de la passion du Christ.
On est mortel et désirable, Marie-Madeleine est le symbole de la mort.
Voilà, et c'est justement cette très très jolie alliance du vase de parfum et du crâne qui évidemment fascine complètement dans ce personnage et dans cette image, et cette icône, on peut dire, même carrément. Hein. Donc ici, elle est particulièrement alanguie, particulièrement ronde, particulièrement XVIIe siècle. C'est une grande dame là, qui nous accueille au fond de cette grotte. Et cette grotte, et tu vois par exemple là, sur les bords, les restes d'un autel qui a lui disparu. Hein. Et ce qui, moi, m'importe beaucoup en te montrant ça, c'est à quel point cette réflexion sur la fin du monde, la fin de soi, le retrait du monde, est importante aussi pour les habitants des Égalades. C'est-à-dire que les grandes familles des Égalades, et Dieu sait s'il y avait des grandes familles, hein, depuis des grandes familles nobles de très vieille origine, se faisaient enterrer ici, à côté de cette grotte. Donc c'est qu'on a bien quelque chose qui relève de cette pratique orientale d'être au plus près, de toucher, hein, pour avoir les grâces. Donc d'être comme à Malaval au 5e siècle, on en reparlera, mais comme à Malaval, il faut être enterré au plus près de ces saints, au plus près de ce lieu sacré, de façon à en recevoir les grâces, par-delà la mort. Et je suis intimement persuadée que cette présence ici dans ce quartier des Égalades, de ces colonies hérémétiques que l'on va aller chercher pendant toute cette promenade, on va descendre du XVIIe siècle de notre Marie-Madeleine ici, que l'on va voir tout à l'heure un tout petit peu dans une autre posture encore, on va descendre jusqu'au Ve siècle comme ça. Mais on ne va pas descendre le temps seulement, on n'est pas dans une petite machine à visiter le temps. On va surtout essayer de comprendre le groupe social qui se constitue autour de ça.
Tu nous dis peut-être un mot sur cet ordre des Carmes ?
Alors, c'est assez intéressant de prendre l'ordre des Carmes comme notre petit fil directeur d'aujourd'hui, parce que c'est un ordre à l'origine hérémétique, c'est-à-dire ce sont des ermites qui étaient sur le Mont Carmel, des ermites qui allaient retrouver d'ailleurs des ermites occidentaux qui, dès le XIe siècle, avec les croisades, retrouvent les ermites de traditions orientales, aussi bien chrétiens d'Orient que orthodoxes, grecs, etc., qui, sur le Mont Carmel, vont s'installer dans des creux en suivant la tradition d'Élie. Élie, leur patron, et on va dire la seule règle, c'est vivre comme Élie. C'est-à-dire que c'est le corps qui va déterminer la règle. Il n'y a pas de règle écrite. Et ces ermites orientaux disséminent à partir du XIe siècle, quittent le Mont Carmel, disséminent à travers la Méditerranée, et c'est à la fin du XIIe, au tout début du XIIIe, qu'une règle est écrite où on va les nommer Carmes, c'est-à-dire ceux qui viennent du Mont Carmel. Et c'est à ce moment-là qu'en Occident, on va les reconnaître à Rome sous ce nom-là, avec bien évidemment une histoire absolument rocambolesque qui est que, comme ils arrivent d'Orient, l'Église de Rome a énormément de mal à les digérer. C'est des bougnoules du moment. Ils arrivent, ils sont rejetés par tous. Ils sont rejetés par le groupe social, ils sont rejetés par l'autorité de l'Église. Et ça, on a des traces de ça. C'est une aventure folle, en fait. Et c'est les dominicains, ordre prêcheurs, mais aussi ordre de pauvres et mendiants, qui vont refaire leurs règles, réécrire leurs règles, pour les intégrer à l'Église d'Occident. Donc ça n'est pas rien. Et nous, ici, sur ce territoire des Égalades, on suit toutes ces phases de la vie carmélitaine, de la grotte d'ermite jusqu'au couvent, en passant par des phases intermédiaires qu'on va voir sur le terrain.
On te suit. Attention, on couche où, Antoine ?
Bonjour, Antoine.
Bonjour. Ah, je m'appelle Antoine Coulanges et je suis prêtre ici, aux Égalades. Depuis maintenant une quinzaine d'années, voilà.
Mais est-ce que vos fidèles viennent encore dans cette grotte ?
Ah, vient qui veut, fidèle ou infidèle, ça n'a pas d'importance. Voilà, oui. Elle est très souvent, quand quelqu'un passe, il est content de la voir. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que quand même, il y a eu un collègue parmi notre équipe de prêtres depuis 50 ans, qui s'appelle Roland et qui vers les 50-60 ans, avait toujours cette idée d'une vie hérémétique et qu'il a essayé à plusieurs moments de faire des essais dans des monastères. Il a eu travaillé un peu à temps partiel comme moi, mais c'était ça. Et alors il a fait des essais et puis comme c'était trop tard, il n'a pas réussi. Voilà, comme je le dis souvent, on doit être chacun des pierres vivantes. Les pierres, c'est des souvenirs, mais les souvenirs n'ont d'intérêt que si elles nous font vivre aujourd'hui. Et c'est les pierres vivantes d'aujourd'hui que nous sommes pour construire, puisqu'on est dans l'Église, construire une communauté de croyants, mais en même temps une communauté d'hommes. Voilà.
Est-ce que vous pensez que la croyance passe par une communauté ?
Ah, évidemment. Sûrement, oui. Sûrement. La croyance n'est jamais individuelle. Elle peut être, même chez les moines, hein, même chez les... Elle est toujours communautaire. Hein. Même si elle est hérémitique, avec des ermites, elle est liée à une communauté, toujours, toujours, toujours. Oui, oui, oui.
Attention, on quitte les abris sous roche. On va traverser la partie la plus dangereuse, c'est-à-dire qu'on est un tout petit peu en surplomb au-dessus de l'autoroute. Voilà, ici c'est nettement plus facile d'accès. Et tu vois, dès que tu commences à arriver près de la grotte, tu te baisses tout simplement. Et qu'est-ce que tu trouves là? Des petits morceaux de ferraille. Bon, d'accord, tu as aussi une vieille semelle qui date d'il y a quelques années, mais on est juste à l'entrée, hein, on n'est pas encore rentré dans la grotte. Et voilà ce lieu magnifique. Alors, à tes pieds, tu vois ce gros mur, cette grosse masse, te montre bien que. Tu avais un mur aussi grand que celui qui est encore existant, qu'on voit très bien de l'autoroute, hein, qui lui est tombé, et il est tombé crac à l'intérieur comme ça de la grotte. Et ça cache quelque chose de très important, il faut que tu viennes avec moi. Voilà, là, à ce niveau-là, on est au niveau même de la grotte. C'est-à-dire qu'on a descendu, tu vois, cette toute petite plante, c'est simplement toutes les pierres du mur qui sont tombées. Et arrivé à ce niveau-là, on voit très bien émerger ceci. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un pilier central, naturel. Il est resté, c'est du rocher de la grotte. Donc la grotte a été creusée volontairement en laissant ce pilier là à vue. Et par ici, si tu veux venir, tu veux vraiment venir jusqu'ici. Par ici, tu enlèves dans ta tête, tu imagines, tu enlèves toutes ces pierres qui sont au sol, tu restes à ce même niveau que je viens de t'indiquer, tu as ton pilier rocheux ici, et qu'est-ce que tu vois apparaître à partir de là? Cette espèce de petite niche là-bas au fond de la grotte, avec des traces qu'on va aller essayer d'analyser. Et depuis là, au 19e siècle, il y a une photo qui a été prise, et où on voit très très nettement la niche, son décor autour, parce que les traces au mur me prouvent que la photo que l'on a est bien la bonne, avec un hôtel devant. Tu vois?
Comment s'appelait ce lieu?
Alors, les jeunes habitants de la cité des Créneaux appellent ça la grotte aux pigeons. Sinon, le panneau DDE que tu vois sur le bord de l'autoroute, on le voit d'ailleurs de moins en moins parce qu'il y a un arbre qui le couvre, indique Grotte Ermitage des Carmes, 12e siècle. C'est aussi le nom du dossier à la Direction régionale des affaires culturelles, parce que tu es dans un lieu qui a été classé monument historique, et les gens du quartier l'appellent l'ermitage. Ce qui est très très intéressant, c'est que lorsque j'étais sur le Mont Carmel, dans la grotte des Carmes d'origine, à côté de la source des Lys, je rentre dans cette grotte qui est fermée. C'est l'ordre des Carmes qui nous a donné l'autorisation de venir. Elle n'avait pas été ouverte depuis je ne sais pas combien de temps, exactement comme notre porte là tout à l'heure. Je rentre et coup au cœur, qu'est-ce que je vois? Exactement la même disposition que dans les grottes ici. C'est-à-dire ce poteau naturel central au milieu. Avec, à mon avis, une pratique de circulation autour de ce poteau, et avec dans le mur des petites auges qu'on retrouve d'ailleurs très bizarrement ici Et si on descendait et si on creusait un petit peu pour enlever les pierres tombées, je crois qu'on trouverait un sol d'origine un petit peu plus bas, très très intéressant pour nous. Alors, ça c'est assez intéressant par rapport à la logique des carmes. D'accord ? Bon, il faut que je te montre maintenant quelque chose d'autre.
Alors là, évidemment, en guise de retrait du monde, on est à 20 mètres de l'autoroute.
Et voilà, ça continue de faire partie de ce qu'on aime bien, de nos paradoxes qu'on commence à voir depuis le début avec Marie-Madeleine. C'est un très beau paradoxe, c'est-à-dire que moi, ce que j'entends surtout, c'est un flux, un peu comme le flux de la rivière. Et c'est un flux moderne. Et je pense qu'il doit saturer assez ta machine, là, non ?
Ça va.
Ça va. Alors, la chose que je voulais te présenter dans cette partie-là de la grotte, on est derrière le mur que l'on voit de l'autoroute. Je voulais te présenter cette petite baie géminée là-haut. Et tu vois cette espèce de pièce en bois qui est dans la deuxième de ces ouvertures. C'est la cloche, c'est le support de la cloche qui a été là jusque dans les années 40. Il faut que tu saches que ce lieu a été un lieu de pèlerinage régulier au moment des rogations, c'est-à-dire lié à toutes les fêtes du printemps. D'accord ? Et tous les habitants des Égalades montaient ici à la grotte au moment des rogations. Et ça, c'est assez intéressant quand on se rappelle de tout ce qui circule autour de la personnalité de Marie-Madeleine. Alors, tout le monde montait ici. C'est un lieu hyper social aussi, parce que les derniers souvenirs des personnes les plus âgées des Égalades que j'ai pu interviewer parlent que pendant la guerre de 40, les gens sont venus aussi s'abriter ici, se protéger dans les grottes. À mon avis, c'est très psychologique, et là encore, d'un inconscient culturel collectif assez intéressant, parce que si on regarde bien la nature du rocher, je pense que n'importe quel petit accident de type bombe ou explosion, ça tombait sur la tête de tout le monde assez facilement. Donc la protection, elle n'est pas logique, elle est culturelle. Il faut savoir que tout ce site Carme a été abandonné par les Carmes seulement à la Révolution. C'est en 1793, on a les traces, on a les papiers, je les ai retrouvés dans les archives diocésaines. Il y a la preuve que deux ermites carmes étaient toujours ici au moment de la Révolution, dans ces grottes-là. Donc ça veut dire que l'ordre des Carmes, en même temps qu'il avait le couvent que nous avons vu et son hôpital que l'on vient de voir, maintenait en désert certains de ces moines qui vivaient la vie hérémétique, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et qu'est-ce que font les habitants ? Ils sont tellement habitués à ça qu'ils maintiennent une présence sociale collective dans ce lieu, sous la forme d'érogation, de petits pèlerinages d'érogation, mais aussi sous bien d'autres formes, j'imagine. Tu vois, par exemple, on trouve encore aujourd'hui, comme tu le vois là par exemple, des petits bouquets de fleurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a bien toujours une mémoire collective en route là-dessus. Alors, il faut qu'on continue d'avancer, qu'on continue de comprendre ça, hein, mais... Tu vois surtout que quand on se met à plusieurs pour essayer d'écrire l'histoire, on arrive à renouer avec des liens historiques très 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 forts qui ne passent pas forcément par la source écrite. De toute façon, il n'y a pas de source écrite. On n'a que des traditions orales, majoritairement sur ce lieu. Donc, je te les répète pour que tout le monde comprenne bien. Tu aurais au 1er siècle Marie-Madeleine, après avoir fondé le christianisme et la communauté chrétienne dans Marseille-Centre, qui remonte ce ruisseau des Égalades et qui s'arrête ici, aux Égalades, dans ces grottes, avant de continuer son chemin jusqu'à la Sainte-Baume. Puis au 5e siècle, tu as Saint Cassien, qui arrive de toutes les grandes fondations hérémétiques de Palestine et d'Égypte, qui arrive à Marseille, et qui va remonter lui aussi ce ruisseau des Égalades, et au 5e siècle, qui va fonder des communautés cassinites, ici. Après, tu continues. Tu as 12e siècle, les Carmes, ils arrivent aussi d'Orient, parce que Marie-Madeleine, elle n'arrive pas de n'importe où, toujours de Palestine. Ils arrivent au port de Marseille. On est dans les temps des croisades, n'est-ce pas ? Ils remontent le ruisseau des Égalades et ils viennent s'installer dans ces grottes dans lesquelles tu avais déjà des pratiques hérémétiques. S'ils viennent ici, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a une espèce de continuité temporelle portée par la tradition orale et par la tradition, j'allais dire, presque corporelle. Et c'est ça qui est maintenu ici. Donc 12e, les Carmes, naturellement, s'installent dans ces grottes. Et là, dans la partie où nous sommes, de cette grotte construite, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont passer de l'ensemble de toute cette petite grotte, parce qu'on en a maintenant trouvé une petite dizaine, où chacun a sa grotte et vit seul ils vont créer ici ce qu'on appelle un cénobium, c'est-à-dire un moment dans la semaine où ils vont se retrouver et avoir un moment ensemble. Et après, hop, ils retourneront chacun dans leur grotte. Donc on a la tradition hérémétique pure, le cénobium, le début de la vie cénobitique. Après ça, le couvent sur l'autre rive du ruisseau, dans le village des Égalades, avec l'hôpital. Et quand les dominicains vont arriver au XIIIe siècle, refaire leurs règles, et que Rome va dire, bon, écoutez, ça suffit maintenant les carmes, il faut que vous rentriez un peu dans le rang, je vous le fais simple, hein, là. On va leur dire, vous quittez le lieu du désert, c'est-à-dire les Égalades, et vous redescendez en ville, et donc ils vont s'installer en ville, sur la colline dite des Grands Carmes, construire leur couvent à cet endroit-là, mais regarde bien, on est toujours dans la même direction qui fait sens, parce qu'à mon avis, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à bien étudier. C'est le sens du paysage, c'est un paysage culturel. Ils vont s'installer à la porte nord de la ville. Comme ici, on est dans la direction nord, et comme ici, cet hôtel et cette niche sont orientés au nord. Tu vois qu'on est dans une espèce d'énorme langage, discours, récit, qui prend en compte tous les niveaux de conscience, y compris le niveau d'orientation.
Pourquoi le nord et pas l'est, où le soleil se lève, ou le sud ?
Et bien sûr, ben ça c'est une des questions. C'est une des questions. Et une des réponses est en Orient, encore aujourd'hui, dans des pratiques de chrétiens orientaux, où tu as l'église qui est orientée vers le nord. Ici, quand tu cherches bien, et ça c'est merveilleux ce site des Égalades, on a quelques archéologues du 19e siècle, fin 19e, début 20e plutôt, soyons précis, début 20e, années 10, années 20, qui vont gratouiller un peu par là autour. Qu'est-ce qu'ils vont ramasser ? De la poterie et des pièces romaines, et ils vont ramasser aussi de la poterie arabe. Moi, je ne suis pas loin de penser que l'ensemble des pratiques dans ce vallon est un ensemble de pratiques parfaitement orientales, liées à ce que nous voyons en Palestine quand un fleuve côtier, c'est-à-dire de l'eau douce, vient rejoindre l'eau salée. Et là, c'est ça, c'est le ruisseau des Égalades qui vient se jeter, à cette époque-là, c'était au niveau de la place de la Joliette. L'eau salée et l'eau douce se rejoignent. À cet endroit-là, tu as le port des évêques. Ne pas oublier ce détail, très important pour comprendre la suite de l'histoire. Mais à cet endroit-là, depuis le 5e et peut-être le 4e, tu as des nécropoles. Et avec Malaval, tu as surtout cette découverte formidable qu'ont fait les archéologues marseillais. C'est extraordinaire, c'est une basilique du 5e. Avec des petites monnaies qu'ils trouvaient tout alentour, qui est une monnaie qu'on va trouver en Afrique du Nord aussi, Vandale. Voilà. Et même chose autour de cette mémoria que vous connaissez tous, hein, qui est cette espèce de lieu saint dans le cœur de cette basilique, double sépulture. Les petites tombes de tous viennent se mettre au plus près là aussi de ce lieu saint, dans lequel tu avais, comme en Orient, aujourd'hui encore, des pratiques d'huile sainte, c'est-à-dire qu'on fait couler de l'huile sur le lieu, la sépulture de ces saints, et cette huile est ramassée après, et cette huile a des vertus toujours liées à ce fameux passage des grâces, quand tu es au plus près de la présence de ces êtres. Donc imagine bien que si j'ai mes sépultures à la sortie de ce fleuve, ainsi que cette grande basilique du 5e, ça veut donc dire que j'ai là un lieu lié à tous les rites de résurrection. Et qu'est-ce que c'est qui se trame comme principal langage quand je remonte petit à petit ce fleuve côtier et que j'arrive ici aux Égalades, si ce n'est, dans ce retrait du monde, cette recherche de la résurrection avant la résurrection. Donc là, je crois qu'on a quelque chose de très, très important pour la fondation de Marseille. Parce que dans le récit officiel d'aujourd'hui, Saint Cassien, il vient pas, on dit qu'il vient ici, aux Égalades, mais personne n'a tiré de conclusion de ça. On dit, ah, il fonde Saint-Victor. Moi je dis, non, il ne fonde pas Saint-Victor, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'ont raconté les gens de Saint-Victor, les plus grands faussaires de l'histoire, étant donné que c'est les seuls à savoir lire et écrire. Donc ils vont ramener l'histoire à eux, on est bien d'accord. Donc l'histoire de Marseille, elle est vers le nord.
Wow.
Elle n'est pas du tout en face, à se regarder soi-même. C'est pas possible.
Autrement dit, l'histoire de Marseille, elle n'est pas écrite, elle est orale, et elle n'est pas occident chrétien, elle est orientale.
Absolument. Ça, j'en suis très très intimement persuadée.
homie 1723. The homie 1723.
On est au bord du fleuve, ce ruisseau des Égalades, qui s'est, je crois, appelé autrefois la Caravelle. On descend donc des grottes et ce fleuve, il nous emmène jusqu'en contrebas, jusqu'à la ville de Marseille, jusqu'aux terres qui appartenaient autrefois aux évêques.
Oui, tout à fait. C'est le nom du ruisseau, dans les vieux textes que l'on arrive à retrouver, c'est le Caravelle. Et le pont que nous avons traversé tout à l'heure en quittant l'ensemble des grottes du Vallon des Carmes, il s'appelle le pont de Car, C-A-R ou C-A-R-S. Mais aujourd'hui, le mot de caravelle, on l'utilise quasiment plus. C'est vraiment le ruisseau des Égalades. Il est appelé comme ça et je crois qu'on va peut-être entre nous garder aussi ce mot-là, parce que c'est le plus usité. Hein. Et comme vous le disiez très très justement, les terres, le long du ruisseau, appartenaient aux évêques. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on va rejoindre le politique. C'est-à-dire, on va s'apercevoir qu'en fait, les premiers évêques qui sont à Marseille et qui fondent la ville, qui dessinent la ville, hein, sur des bases de spiritualité, ont des terres dans cette zone-là de Marseille, ce nord de Marseille, type par exemple, quand vous connaissez tous la célèbre cité Campagne l'Évêque, en fait, ça vient de là. C'est-à-dire que toutes ces terres appartenaient à l'évêque, c'était la campagne de l'évêque. Et ce qui est très très intéressant, c'est que c'est précisément à cet endroit-là, le long de ce ruisseau des Égalades, qu'il y a cette découverte qui est faite à Malaval. Les historiens catholiques sont venus voir, parce que ça remettait tellement en question un certain nombre d'idées reçues, que là, ils sont venus, ils ont fait le voyage. Et nous, un petit peu de façon, j'allais dire, dommage, on n'arrive pas à intégrer ce beau récit que les archéologues ont fait émerger de la terre à cet endroit-là. Alors, je crois qu'on peut l'intégrer et que les auditeurs peuvent l'intégrer d'une façon assez simple. C'est que si cette hypothèse, notre hypothèse ici, sur le terrain du Vallon des Carmes aux Égalades, est juste, à ce moment-là, on a quelque chose de très très intéressant. On a une réécriture de la tradition qui raconte la fondation de la ville. C'est-à-dire que la fondation de la ville, elle est beaucoup plus complexe que ce seul calanque des origines, gna gna gna, que je trouve quand même un peu gna gna. Là, il y a quelque chose d'autre qui va s'articuler. Bon, ça c'est la première chose, et ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit. La deuxième chose, c'est... comment vous dire ça? Quand les évêques veulent fonder leur pouvoir, ils fondent aussi leur ville, le nom de leur ville. C'est très très symbolique tout ça. Par exemple, l'évêque d'Arles, il attire à lui Honorat, qui a fondé le grand lieu de retrait du monde hérémétique qu'est l'île de Lérins, les îles de Lérins, parce qu'elles sont deux. Donc Honorat, à la demande de l'évêque d'Arles, vient en Arles et va fonder, là encore, une colonie hérémétique, mais surtout deux monastères. Donc il y a fondation monacale. L'évêque de Marseille, il fait la même chose. Il attire non pas Honorat, il est parti à côté chez les concurrents. Arles étant en concurrence à cette époque avec Marseille. Mais lui, il attire Cassien. Cassien va venir, va fonder ses colonies hérémétiques, exactement sur le même schéma. Et après ça, des conglomérats de colonies hérémétiques qui vont donner des premières fondations monacales, de monastères, monos. Parce qu'à l'origine de ce mot monos, c'est seul, c'est vraiment la base de l'hérémétisme, en Orient. Et nous, on a fait la contresens, on en a fait un lieu architecturé. Le monastère, c'est pas ça. Dès qu'on va lire monastère, nous, on va imaginer bâtiment. Mais non, monastère, c'est d'abord une grotte avec quelqu'un dedans. Donc là, on voit se dessiner un Marseille, progressivement. Ce Marseille, de suite, en faisant venir Cassien, on fait vraiment venir la personne qui arrive de Palestine et d'Égypte. Donc, on ne va pas chercher n'importe qui. On va venir réarticuler un vrai langage de fondation méditerranéenne, mais surtout orientale, dans ce lieu-là, dans ce conglomérat-là. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à un tout petit peu effeuiller, un peu comme un petit oignon, hein, dont on, petit progressivement, on va découvrir des choses au fur et à mesure. Parce que tout est à faire, il faut que vous le sachiez. Quoi. Là, c'est notre hypothèse de travail à nous tous ici, aussi bien les habitants de la Cité des Créneaux que les fous collectionneurs de l'Association des Amis des Égalades, que le prêtre de l'Église des Égalades, que les habitants de la Cité des Égalades. Certes, on s'y est mis tous, on a enfin fait émerger cette petite colonie d'ermites. Mais il faut qu'on aille plus loin. Et je pense que votre radio, elle est importante pour aller encore plus loin. Il faut réécrire cette histoire. Il faut qu'on l'écrive collectivement. C'est un petit peu ma conviction. Et Malaval, pour ça, c'est une pièce maîtresse, absolument maîtresse. En plus, comme je vous le disais tout à l'heure, trouver dans le carré de fouilles de Malaval, dans les tombes et hors tombes, bien sûr, des monnaies vandales, qui vont nous ramener directement avec une occupation de Marseille, qui va être la même à Marseille et en Afrique du Nord, c'est assez beau. Mais ça me rappelle une petite histoire, je vous la livre comme ça, vous en ferez ce que vous en voulez. Hein. Au pied de la Sainte Victoire, il y a un ermitage qui s'appelle Saint-Cerf ou Saint-Cerf, Servius. Et là, on dit que ce pauvre ermite, il a été pris par des méchants ariens, des chrétiens, ils sont ariens, visigoths, ils sont chrétiens, ce n'est pas du tout les barbares qu'on nous a vendus à un certain moment, ils sont chrétiens, mais ariens. C'est une tendance chrétienne de l'époque. Donc on le prend et on lui coupe les oreilles et on le tue. Bien. Je cherche Servius, Cerf, Cerf. Et qu'est-ce que je trouve dans la tradition chrétienne d'Orient chez les orthodoxes? Le même saint, Cerf, Cerf, Servius, qui lui est en Afrique du Nord, que des méchants visigoths, les mêmes, ariens, viennent, prennent, lui coupent les oreilles et le tuent. Merveilleux, non? C'est-à-dire qu'on a là une espèce de, j'allais presque dire, un plateau continental et qui fait fi de la Méditerranée. Et qui est très très intéressant. C'est exactement comme ici à la Cité des Créneaux. Quand je parle avec un jeune homme qui est chargé de la mosquée ici à la Cité, et que l'on parle de la grotte, qui est une des grottes de notre chapelet de grottes hérémétiques ici dans le vallon des Carmes, et on parle, et je lui dis, mais c'est extraordinaire quand même, parce que dans l'islam, dans l'histoire même de Mahomet, le début de la vie spirituelle de Mahomet, elle commence où ? Elle commence dans une grotte. Donc ça veut dire que Mahomet, en plein Orient, il s'est rendu au désert, il a vécu aussi ce désir de désert, il s'est aussi retiré de la vie, de la ville, de la vie commerciale, parce qu'il était quand même un commerçant. Il faisait marcher des grandes lignes comme ça de commerce avec des caravanes. Donc c'était pas rien. Désir de désert, il part en dehors de la ville, il part dans une grotte. Et c'est exactement ce qu'on vit ici. Et là, on a des espèces de continuités, c'est mon fameux plateau continental là, dont je vous parle, qui font que du coup on peut se réécrire et se re-raconter toutes ces histoires autrement. Et moi je pense que des émissions comme les vôtres sur ces notions, moi j'aimais bien le titre « Mythe d'ermite », c'est pas seulement un jeu de mots un petit peu de radio branchée, pour moi c'était plus que ça. Mythe, ça veut dire vraiment essayer de revenir aux grands récits de fondation, aux grandes épopées de fondation, c'est ça. Parce que j'ai horreur de tous ces discours...
œcuméniques.
Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on sait tous très bien que c'est du bidon, que ça ne fonctionne pas du tout. Moi, je préfère dire, avec Ben Assayag, allons-y, éloge du conflit. Nous sommes en conflit, youpi. Voilà, parce que dans ce conflit, il y a dialogue. C'est parce que toi, tu es musulman des créneaux, que moi j'arrive de culture chrétienne en tant qu'athée profonde et de culture chrétienne, que je ne peux pas nier, je suis tombée dedans, c'est mon héritage. On peut arriver à certains moments à être dans des conflits absolument terribles, parce que la discussion avec lui, elle n'a pas été facile, mais en même temps, on partage peut-être à certains moments, des moments où on s'aperçoit que les patrimoines en conflit traversent des zones où le dialogue peut s'établir. C'est pas tout à fait la même chose. Et tu établis un dialogue parce que tu es différent. Si tu es le même, tu dialogues pas. Tu fabriques du clone. C'est ça qui me dérange toujours. Dans toute notre idéologie humanitaire, populiste de gauche, surtout, c'est ce qui m'énerve le plus actuellement. Je pense vraiment qu'il faut qu'on aille au bout de nos conflits. Absolument au bout. C'est pas facile parce que je dois avouer que, par exemple, retrouver ma culture chrétienne et l'assumer, c'est ce que j'ai fait dans un voyage en Palestine, en me retrouvant dans des territoires palestiniens entièrement ravagés par une guerre innommable, injuste comme c'est pas possible, avec une pauvreté, une détresse déchirante. Et c'est dans un contexte comme ça que je me dis, mais attends, faudrait peut-être quand même pas oublier que même si je suis fondamentalement non-croyante, il faut que j'arrive à faire en moi-même une gestion de ce conflit terrible entre ce qui est de l'ordre de ma façon d'être sociale athée et de ce qui est de l'ordre de l'histoire longue qui aussi me fabrique, qui est celle d'une chrétienté et qui plus est, hélas, occidentale. Voilà.
Vous écoutiez Mythes et Ermites, une émission dans la thématique « Ma foi » avec Christine Breton, conservateur du patrimoine. Prochain rendez-vous dans cette thématique, demain à 9h30, chronique mythologique, Guillaume Mont-Saint-Jean, à propos de Google Earth. Et à 14h, diffusion de la conférence de Pierre Asner, une identité cosmopolitique aujourd'hui. À 18h, Divin Marché, une émission d'Anouk Batar avec Dany Robert Dufour, Bruno Etienne et Serge Halimi. D'ici là, restez à l'écoute sur les 3-8.